Bé, continuem amb la segona sessió. Ahir en Jordi Font, el director de MUME, us explicava quan abans de presentar l'Enzo Traverso que havien tingut una sèrie de canvis en el programa del matí, només del matí, la tarda és exactament igual com teniu el programa, i arran d'aquests canvis vam pensar que era, tot i que ja veureu que serà improvisat en bona mesura, era interessant aprofitar que teníem dins d'aquest col·loqui tres grans especialistes en els intel·lectuals, el món intel·lectual europeu de la, diguem-ne, de la primera meitat del segle XX, però de fet més enllà de la primera meitat del segle XX també. I va pensar que, tot i que a risc de que això sigui una mica improvisat, segurament seria una oportunitat per començar per nosaltres i per també per tothom de gaudir en tot cas d'un debat sense gaires línies, diguéssim, fixades, sense el format típic d'una conferència, sobre alguns aspectes que d'alguna manera crec que ens preocupen a tots, a totes, si més no els que estem aquí segur, sobre els diferents tipus, diguéssim, de compromisos intel·lectuals i els diferents tipus d'actituds intel·lectuals davant de grans conflictes, siguin ja des de la Primera Guerra Mundial, com vam enfocar-ho ahir, i la Revolució Bolxevic, fins sigui també la Segona Guerra Mundial, i també, i aquí és on espero que acabarem arribant-hi, sí, també de, diguéssim, dels últims conflictes, i de, sobretot de la segona meitat del segle XX i les últimes dècades que estem vivint. De fet, la conferència de l'Enzo Traverso ahir va arribar, d'alguna manera, sobretot a través de les preguntes sobre aquests temes, i per tant és un, crec que és una oportunitat magnífica aprofitar la presència de l'Enzo Traverso, de Manuel Falla i de Ferran Gallego, que parlarà farà la primera conferència de la tarda, aprofitar aquesta situació per encetar un debat tant entre nosaltres com amb vosaltres al voltant d'algunes qüestions sobre això. Tenim, com que ja sabeu que anem una mica justos de temps per qüestions que no tenen a veure amb el col·loqui, sinó més aviat amb el procés que estem vivint a Catalunya els últims temps, a les 12:30 hauríem de tancar, i com tenim previst el programa, tindrem abans d'aturar-nos al matí la presentació del llibre de Mari Paz Valibrea, i per tant tindrem al voltant d'uns 40 minuts per fer aquest debat. I de fet, com que, insisteixo, és en bona mesura improvisat, comentàvem ara amb l'Enzo Traverso que era interessant reprendre la discussió de la conferència de l'Emmanuel Faye ara mateix, i a partir d'aquí començar a obrir aquesta discussió que comentàvem. Per tant, li passo la paraula a l'Enzo Traverso, si quieres començar, i a luego...
La discussió, i com se trata de discutir de algunes ideas, interpretaciones planteadas por Emmanuel Fay en su ponencia, sería más simple para mí hablar en francés y después, eventualmente, en la discusión, yo volveré al castellano. C'est un débat sans dispositif. Il n'y a pas de Gestell ni de dispositif au sens foucauldien disciplinaire. C'est une discussion très ouverte. Et j'ai beaucoup apprécié cette communication, et j'aime beaucoup l'œuvre, le travail d'Emmanuel Faye, que je trouve très salutaire. Puisqu'il pose des problèmes, il suggère des interprétations à contre-courant d'une certaine doxa, d'un certain... il s'attaque à des lieux communs et à une tendance que je trouve assez problématique et parfois désagréable, à l'iconisation et la canonisation de certains auteurs. mais je ne le suis pas dans tout ses, dans son chemin jusqu'au bout. Et disons, je suis séduit par certaines de ses analyses et je suis parfois un peu dérangé par une certaine méthode qui est celle du philosophe, disons, mais qui ne coïncide pas tout à fait avec la mienne, qui est celle de quelqu'un qui essaye de faire de l'histoire intellectuelle. Et parfois, je trouve que certaines généalogies que vous avez tendance à esquisser posent problème. On a l'impression, en vous écoutant, que toute influence heideggerienne deviendrait une sorte de souillure et de tare originaire qui serait à l'origine de l'égarement de tous les penseurs du XXe siècle. Et là, j'y vois parfois, si je le dis dans un esprit provocateur, mais amical et fraternel, disons, une méthode un peu déridienne et postmoderne, disons, de lecture textuelle et un peu décontextualisée. Hier, j'ai essayé de parler de l'engagement intellectuel dont la matrice historique serait la révolution russe, et donc le renouvellement du marxisme au XXe siècle, l'émergence de la figure de l'intellectuel révolutionnaire. Il y a un marxisme heideggerien. Il y a un marxisme heideggerien. Herbert Marcuse en est un des représentants les plus remarquables. Günther Anders est un marxisme heideggerien, c'est-à-dire est un marxiste heideggerien, c'est-à-dire des penseurs qui ont toujours assumé une certaine matrice philosophique heideggerienne, et pourtant je défie quiconque à trouver la moindre ligne, aussi bien chez Anders que chez Heidegger, de compromission ou de complicité avec le nazisme. Et leur relation avec Heidegger a été extrêmement claire. Ce n'est pas le cas de Hannah Arendt, j'en conviens, mais on ne peut pas considérer Heidegger comme la source d'une pensée forcément de droite ou forcément compromise avec le fascisme et le nazisme. Or, le cas de Hannah Arendt est un cas très particulier. Je ne suis ni un postmoderniste, je ne m'inscris pas dans ce courant, je ne suis pas arendtien. Dans un de mes derniers livres sur la fin de la modernité juive, je consacre un chapitre à Hannah Arendt où je formule des critiques assez vigoureuses. Hannah Arendt est une penseuse politique inclassable, je dirais ni de droite ni de gauche. Elle ne vient pas du marxisme, elle l'a souligné dans sa correspondance avec Scholl. Ce n'est pas une tare non plus, mais il y a eu un usage de gauche de Hannah Arendt et il y a une dimension libertaire dans sa pensée. Alors, je partage avec vous cette interprétation de la pensée de Hannah Arendt, selon laquelle il y aurait une matrice que je dirais existentialiste au sens large du terme. Elle partage avec Schmitt l'idée d'une autonomie du politique, par exemple. Je suis tout à fait d'accord que sa théorie politique pose toute une série de problèmes, que la question noire aux États-Unis a révélé, a mis en lumière d'une manière tout à fait éclatante, cette idée de l'espace public, la sphère publique, la vita activa action comme une sphère complètement séparée du domaine du labor work. Et donc l'incapacité par Hannah Arendt de penser la question sociale comme une des dimensions du politique, c'est la ligne de clivage qui sépare la pensée politique de Hannah Arendt d'une tradition de gauche et surtout de la tradition de l'engagement révolutionnaire des intellectuels. De cela, je suis tout à fait convaincu. Cela n'empêche que sa conception très problématique du politique a une dimension libertaire. Elle théorise une démocratie directe, une démocratie oculaire, une démocratie au sens horizontal du terme. C'est la raison pour laquelle les mouvements étudiants et de contestation des années 60 se sont appropriés à Hannah Arendt, peut-être d'une manière assez sélective, en ignorant tout un pan de la pensée arendtienne, son aveuglement total vis-à-vis de la question coloniale, par exemple, et on pourrait donner plusieurs exemples à ce sujet. Mais bref, Hannah Arendt est une figure inclassable que je inscrirait dans une tradition républicaine qui est plus de gauche que de droite. Elle n'est pas une penseur politique du libéralisme classique. Mais bon, dans ses écrits, on trouve parfois son livre horrible à mes yeux sur la révolution est une sorte de réhabilitation posthume du conservatisme contre-révolutionnaire à la Edmund Burke. Et d'autre part, elle écrit des textes jubilatoires sur Rosa Luxembourg et la démocratie des conseils. Hannah Arendt est une concentration, une coagulation de tensions et de contradictions. Alors, comment est-on arrivé à cette canonisation posthume de Hannah Arendt? Je pense que Hannah Arendt a été une sorte de, on dit bouée, hein, de sauvetage, hein, du planche de salut pour toute une génération intellectuelle qui, à la fin des années 70, début des années 80, est restée orpheline du marxisme et de toutes les références intérieures de la gauche et qui ne voulait pas adhérer au libéralisme conservateur et faire, suivre la trajectoire de beaucoup d'intellectuels anticommunistes et qui s'est accrochée à Hannah Arendt à trouver une solution. Cela dit, il faut historiciser critiquement la pensée de Hannah Arendt. Je reste convaincu que son livre sur les origines du totalitarisme, au-delà de tous les problèmes qu'il pose, qui sont d'un point de vue historiographique énormes, les trois parties qui se succèdent ne sont pas très cohérentes entre elles, antisémitisme, impérialisme et système totalitaire, restent malgré tout un ouvrage qui marque une prise de conscience de la rupture et de la lacération provoquée par l'Holocauste dans la culture occidentale. Et puis on pourrait élargir le thème parce que à ce moment-là, il n'y a pas que le post-structuralisme et le post-modernisme. L'existentialisme sartrien a une matrice aussi heideggerienne. Alors on pourrait à ce moment-là élargir le domaine. Alors, la révolution conservatrice, je ne pense pas qu'on puisse la définir comme la tentative par l'extrême droite ou le nationalisme d'emprunter des éléments de la gauche. La révolution conservatrice, c'est quelque chose d'hybride et de paradoxal et d'assez monstrueux finalement. C'est la tentative de faire coexister des valeurs héritées par le conservatisme et par la contre-révolution, par la Gegenaufklärung, par la les contre-lumières, avec un culte de la technique tout à fait moderne. Et c'est ça le cœur de la révolution. Donc, de ce point de vue-là, Heidegger est quelqu'un qui s'inscrit dans cette mouvance d'une manière aux marges, si vous voulez, d'une manière pas tout à fait cohérente. Et Carl Schmitt aussi. Alors, Carl Schmitt, encore une fois, c'est loin de moi l'idée de vouloir réhabiliter ou défendre ces personnages. Mais Carl Schmitt, j'ai du mal à le lire comme un nazi tout court. Bon. Carl Schmitt a été un nazi, il n'y a pas de doute sur cela. Carl Schmitt a été impliqué pendant toute la trajectoire du régime nazi. Il a été mouillé jusqu'au bout, il a écrit des textes apologétiques, il a utilisé des catégories völkisch et des catégories nazies. Mais la pensée politique de Schmitt n'est pas nazie. Au sens philosophique, Schmitt, il vient d'une tradition très conservatrice catholique. Schmitt est quelqu'un qui théorise le fascisme, mais à sa manière, qui n'est ni celle des théoriciens ou des idéologues du national-socialisme allemand, ni celle de Mussolini et Gentile du fascisme italien. Il théorise le fascisme comme une version sécularisée de Carthage. Catégorie théologique héritée de l'absolutisme. Ses maîtres à penser sont Donoso Cortés et Joseph de Maistre. Bref, je pense que il faut inscrire il faut inscrire ces penseurs dans leur contexte historique, il faut procéder à une lecture critique qui dépasse les analogies textuelles ou les homologies intellectuelles qu'on peut et philosophique qu'on peut établir. Parce que à ce moment-là, on peut ramener Macron, pour lequel je n'ai aucune sympathie. Je veux dire. Et le problème n'est pas là. À Paul de Man et au maître à penser du jeune Ricoeur. Disons, ça me paraît une méthode assez problématique. Alors, de même que lire certains textes. J'ai Emmanuel Fay connaît Heidegger et Arendt beaucoup mieux que moi. Je ne prétends pas disons, apporter la lecture correcte, mais j'ai des fortes doutes sur le fait que Hannah Arendt ait pu influencer la conférence de Brême de Heidegger, pour la simple raison que, bon, même quand on lit leur correspondance, Heidegger était un philosophe, un grand penseur, mais il était un raciste, il était antisémite et misogyne. Donc il n'a jamais pris au sérieux Hannah Arendt. On peut chercher une matrice heideggerienne dans la pensée de Hannah Arendt, mais on ne peut pas trouver une influence de Arendt dans la pensée de Heidegger. Cela me paraît problématique. Mais je ne veux pas enfermer la discussion dans un dialogue comme cela. Donc, je crois qu'on avait prévu de toucher aussi toute une série d'autres questions. Mais disons, l'histoire intellectuelle est faite de croisements, d'hybridations, trajectoires qui ne sont pas linéaires. Et il y a des passages de la droite à la gauche qui peuvent se faire sans contamination, contamination néfaste ou létal. Hein. On peut aussi faire un bon usage d'une pensée de droite. Parce que sinon, on adopte vraiment une posture qui est celle d'un certain postmodernisme radical que je vois bien dans les campus américains, qui consiste à dire on fait une table rase parce que Platon était esclavagiste, parce que la pensée des Lumières était contaminée par le colonialisme. Et alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune référence possible, on ne peut plus se nourrir d'une pensée. On peut lire des auteurs réactionnaires sans en faire un usage réactionnaire. Donc, c'est bon.
Oui. Merci beaucoup, hein, Enzo Traverso. Je crois que vous ouvrez un grand espace de débat qui est très intéressant parce qu'il est aussi méthodologique, comme vous le soulignez. Et en fait, sur le plan méthodologique, avec quand même effectivement mes limites qui fait que je suis de formation philosophique, mais depuis l'origine attentif à l'histoire et à la philologie, en fait, je n'ai pas de ma part de conflit méthodologique du tout avec vous. Je pense qu'une des forces justement du champ philosophique français, c'est qu'il n'est pas comme aux États-Unis. Il n'y a pas cette coupure qu'on a aux États-Unis entre l'histoire intellectuelle et la philosophie. C'est-à-dire que les philosophes français sont, on leur reproche souvent, vraiment des historiens des idées. Souvent, c'est vrai qu'ils ne contextualisent pas assez. Pour ma part, je me suis efforcé, je suis conscient que peut-être je le fais moins bien que vous, mais toujours de contextualiser. Par exemple, l'appel à l'extermination totale de Heidegger, Völlenvernichtung, j'indique que c'est une expression qui est reprise aux étudiants nazis qui, dans le Kampfbund für deutsche Kultur, luttent pour préparer les autodafés. Alors, pour eux, il s'agit de détruire ce qu'ils appellent la littérature de pourriture judéo-marxiste. Et Heidegger reprend l'expression, mais il va plus loin, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des autodafés, il s'agit d'anéantir l'ennemi même. Il y a une personnalisation. Donc, chaque fois, j'essaye de voir le contexte, le champ sémantique et historique de chaque expression. Et parmi ceux qui travaillent avec moi, Sidonie Kellerer est à la fois germaniste, philologue et philosophe. Sur Arendt, je prépare en avril avec un collègue historien de la Révolution française un colloque sur Arendt, la Révolution et les droits de l'homme. Je pense qu'il faut travailler de manière interdisciplinaire. Donc il est possible que je n'y parvienne pas suffisamment, mais dans le principe méthodologique, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on ne peut pas séparer philosophie, histoire intellectuelle, et qu'il faut que les philologues, les juristes, les historiens, les philosophes, sur ces sujets, sur ces corpus, gagnent absolument à travailler ensemble. Alors, bien sûr, quand je parlais de la référence Ricoeur, je ne voulais pas dire que Macron était un disciple de Paul de Man, bien sûr que non, et je pense que le jeune Macron ne savait pas le passé de Ricoeur, donc il ne s'agit pas ici de faire un procès d'intention à un homme politique. Je voulais dire simplement que la référence à Ricoeur n'est pas nécessairement une référence démocratique allant de soi, et c'est tout.
Hein. D'accord.
Alors, ce que je voulais dire, quand même, deux, trois points importants. Sur le marxisme heideggerien, personnellement, j'ai extrêmement appris de Günther Anders. J'ai essayé de faire traduire son livre paru en allemand, Über Heidegger, impossible de le faire traduire en France. Je ne crois pas que Anders puisse être présenté comme un heideggerien. Il est extrêmement critique. Il a écrit une critique de Être étant remarquable sur la pseudo-concrétude de Être étant. Il explique que le Dasein chez Heidegger, c'est un suicide qui dure toute la vie. Et enfin, il est très ironique aussi. On peut dire qu'il a quand même capter quelque chose de cette problématique de la technique, bien sûr, mais les réponses qu'il donne sont bien différentes. Marcuse lui-même, à la fin des années 60, avait eu un entretien qui est toujours inédit avec Jean-Pierre Faye, au moment où il s'agissait de faire paraître en France un numéro critique sur Heidegger dans la revue Change, qui n'est pas paru malheureusement, je n'ai pas le temps de développer. Et Marcuse a publié en 71 un entretien en américain où il dit que la pensée Heideggerienne de la technique n'apporte rien. Donc je sais qu'il a été à un moment très imprégné de Heidegger. Il a développé une forme d'hégélianisme heideggerianisé, mais il s'en détache très vite. Et donc là aussi, je n'en verrai pas chez lui un marxiste heideggerien. Les marxistes heideggeriens, pour moi, c'est Axelos ou encore Alfred Schmitt, assistant de Horkheimer, qui a publié un livre sur le marxisme heideggerien et qui s'est opposé à moi quand mon livre est paru. Je lui ai répondu dans la postface en allemand de mon livre sur Heidegger. Mais je pense que c'est des tentatives qui ne marchent pas. Il se cautionnait de Marcuse et je lui ai dit que, à mon avis, ça ne fait pas sens. Dès 1933-1934, Marcuse écrit un texte en français qui est resté inédit. J'ai eu l'autorisation de le publier par son fils, mais je ne l'ai pas encore fait, où il met vraiment la pensée d'Heidegger parmi l'existentialisme politique qui se caractérise par un héroïsme raciste, etc. Il est l'un des premiers à avoir vu le racisme heideggerien. Mais c'est un point important. Donc, je comprends très bien que la lecture d'Heidegger puisse sensibiliser à certains problèmes, comme celui de la technique. Mais ce n'est pas pour autant que Jonas ou Anders peuvent être dans leur philosophie encore pensés comme marxistes, à mon avis. Mais ça, c'est un débat. Maintenant, sur Arendt, puisque notre discussion est là, il me semble que vous me le direz, et je ne veux pas du tout préjuger, que ce que vous dites marque dans votre travail de recherche une forme d'évolution, parce que vous nous dites que Heidegger est inclassable, qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Arendt n'est inclassable, ni de droite ni de gauche. Dans l'excellente anthologie sur le totalitarisme que vous aviez publiée, vous indiquiez à un moment qu'elle se situait clairement dans le camp de l'antitotalitarisme de gauche. Je pense que ce que vous dites aujourd'hui est plus proche de ce que je perçois dans les textes. Mais si elle est inclassable, et elle se voulait inclassable, elle a toujours dit « je suis ni de droite ni de gauche », effectivement, mais elle dit aussi qu'elle n'est pas de gauche, c'est parce qu'elle, à mon avis, s'arc-boute à ce paradigme de la révolution conservatrice qu'elle valorise. Par exemple, il y a un poème qu'elle envoie à son ami Blumenfeld, et elle le crédite d'être un vrai révolutionnaire conservateur. Donc c'est un oxymore qu'elle apprécie. Et alors là où nous sommes peut-être en désaccord, c'est sur l'interprétation de la révolution conservatrice. Celui qui a vraiment employé l'expression, et là en philologue si vous voulez, je m'intéresse toujours au moment où le concept apparaît, et qu'il a revendiqué, qu'il a pensé, qu'il a thématisé, c'est vraiment Möller Vandenbroucke. Donc c'est comme ça que je pense le concept. Je ne pense pas que Heidegger ou Schmitt soient à mettre dans la révolution conservatrice. Je pense que ceux qui le mettent, comme Armin Möller, alors ce n'est pas votre cas bien sûr, mais l'ont fait dans une intention stratégique de les réhabiliter, parce que ça passe mieux de dire que c'était des révolutionnaires conservateurs que de voir le fond national-socialiste et hitlérien de leur pensée. Et chez Möller Vandenbroucke, il y a vraiment cette volonté de capter un potentiel révolutionnaire pour préparer. Le but, c'est une révolution allemande. Voilà, là, il y a une discussion qu'on peut avoir très importante sur ce paradigme de la révolution conservatrice. Alors, la lecture que je fais des corpus, il me semble un peu difficile de la rapprocher de celle de Derrida. Mais là, je ne peux pas être jugé parti. Donc, lisez mes livres, lisez ceux de Derrida. Le style est volontairement différent. Il y a peut-être que il y a un paragraphe à la fin de mon dernier livre sur Arendt et Heidegger où je discute longuement le petit livre de Jean-Luc Nancy sur la banalité de Heidegger, et je joue un peu à rentrer dans les méandres de la manière d'écrire postmoderne, mais pour ensuite en sortir. C'était une
provocation,
une concession en fait, parce que la thèse, si vous voulez, de Nancy aujourd'hui, c'est que l'antisémitisme de Heidegger est banal, c'est l'antisémitisme de son temps. Il y a un petit livre qui vient de paraître il y a une semaine, un entretien Badiou-Nancy, où Badiou également dit son accord. Je suis vraiment en désaccord, parce qu'il récupère, si vous voulez, le terme d'Arendt, pour dédouaner en partie Heidegger. Alors ils disent oui, c'est un antisémitisme médiocre, etc. Non, ce n'est pas un antisémitisme banal, parce que c'est un antisémitisme, et là je prendrai le concept d'un historien, rédempteur, au sens de Saul Friedlander, c'est-à-dire l'idée qu'on voit dans les Cahiers noirs que l'essence allemande, pour s'affirmer et exister, a besoin de s'affirmer contre un adversaire qui pousse à sa déracification, l'élément juif. Hein. Ce judaïsme dont Heidegger dit que c'est qu'il a des affinités avec la criminalité planétaire. Donc, bon. Vous voyez, donc c'est un antisémitisme à tendance génocidaire. Et ça, ce n'est pas banal. Tous les Allemands n'étaient pas des antisémites exterminateurs, loin de là. Hein. Vous voyez, donc je n'ai pas du tout la même lecture que mes collègues qui sont dans une autre manière d'écrire. Alors, bien sûr, Schmitt comme Heidegger ne sont pas n'importe quel nazi. Schmitt, c'est vrai, vient d'un contexte catholique. Mais son catholicisme, il faut l'étudier de près. Il est complètement transformé très tôt, dès les années 10, 20, par la lecture de Döbler, etc. Il faut voir ce qu'il devient. La lecture aussi de Maurras, c'est un catholicisme politique, hein, qui n'est pas plus chrétien que celui de Maurras, à mon avis. Et voilà, c'est aussi le cas de Hitler, qui vient aussi d'un fond catholique viennois, etc., qui le transpose dans quelque chose de tout autre. Et quand Hitler dira que en luttant contre les juifs, j'obéis à la voix du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ce Seigneur chez Hitler? Il y a une théologie hitlérienne qui est très, très problématique, qui est très étudiée en Allemagne. Donc, je suis d'accord pour reconnaître complètement que ni le corpus de Heidegger et de Schmitt ne sont pas au niveau d'un Gauleiter de base. Mais justement, c'est ça qui fait le problème. C'est-à-dire qu'un philosophe nazi de bas étage comme Ernst Krieg, il meurt dans un camp d'internement allié en 1947. Il est quand même partiellement réhabilité. On le traduit aujourd'hui en Russie, etc. Mais il y a des tentatives de le réhabiliter comme penseur de la pédagogie. Il faut s'accrocher. Mais bon, il n'a pas du tout le même comeback, bien sûr, que Heidegger et Schmitt. Mais Heidegger et Schmitt, précisément par leur... les différents niveaux dans lesquels ils arrivent à évoluer, niveau discours, hein, ont réussi à surnager, et pas qu'un peu après 1945. Et c'est là le problème. Ma thèse, c'est que cette introduction d'une pensée nazie dans un champ détruit ce champ. Heidegger est pour moi la destruction même du philosophique, ce qu'il revendique, puisqu'il dit en 1947, que la philosophie est arrivée à sa fin. Et Schmitt, par sa distinction du Recht et du Juristisch, est la destruction du droit. Hein. Et il y a beaucoup de juristes aujourd'hui pour considérer que Schmitt n'est pas finalement un philosophe du droit. Hein. Il n'apporte pas un nouveau concept opératoire du droit. Quand on dit que le Führer protège le droit, quand on dit que le droit, le Recht, c'est l'expression de la volonté du Führer, il n'y a plus de place pour un champ juridique. Donc c'est ça, si vous voulez, la thèse que je soutiens. Bien, alors, le dernier point, vraiment, il faut étudier, je n'ai fait qu'en parler très vite, la préface à Jaspers d'Arendt de 48 et le texte de Heidegger de 49. Bien sûr, Heidegger est antisémite, misogyne, etc. Mais il a besoin de reprendre pied dans le champ allemand, au moment où il est interdit d'enseignement, de 45 à 51, et l'homme clé, c'est Jaspers. Puisque c'est Jaspers qui a envoyé la lettre au président de la commission de dénazification, qui était des universitaires de Fribourg, en disant « Heidegger, sa pensée est trop non libre, dictatoriale, pour qu'il puisse enseigner aux jeunes Allemands. Donc il ne peut plus enseigner, mais laissons-le faire son œuvre. Il faut donc que le veto jaspersien soit levé. » Et dans cette problématique, il est capital de capter les faveurs d'Arendt, qui est la grande amie de Jaspers. Et c'est vraiment dans cet esprit que travaillent Heidegger et sa femme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier Elfriede. Hein. Le lendemain, c'est très curieux, le lendemain de leur retrouvaille, le 6 février 1941, Heidegger demande à Arendt de venir chez lui, où il lui fait rencontrer Elfriede, dont on sait qu'elle est nazie, antisémite, etc. Ils les font s'embrasser, et dans toutes les lettres qui suivent, Heidegger insiste sur cette amitié entre sa femme et son ancienne maîtresse. Arendt aussi dit son empathie pour Elfriede, et Elfriede ne fait que lui parler de Jaspers. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont une stratégie ici très, très sournoise de captation d'Arendt pour lever l'hypothèque Jaspers, qui passe par ce curieux trio Arendt, Elfriede, Heidegger, et par une captation d'éléments de discours de la préface d'Arendt à Jaspers qui sont retravaillés à sa manière, recaptés à sa manière par Heidegger. C'est quelque chose qui peut être décrit, mais bon, on peut en discuter. Je vais m'arrêter là. Donc, vous voyez, pour conclure, j'apprends beaucoup de la lecture des ouvrages d'Enzo Traverso, et je suis heureux d'avoir l'occasion de dialoguer avec un historien des idées. Je pense que c'est capital, et je trouve même beaucoup plus d'intérêt qu'à travailler avec des philosophes qui, eux, sont parfois dans un travail complètement décontextualisé.
Si. Bé, algunes de les coses que han centrat aquest debat són sobre el debat sobre la visió que ens ha donat de la Hannah Arendt. Jo, de totes maneres, volia respondre també a algunes provocacions que el professor Enzo Traverso ens ha posat aquí, interessants perquè són d'un debat que va més enllà del que estem parlant aquí. Per exemple, si se'm permet fins i tot l'aspecte personal que hi ha amb aquesta reflexió, la canonització de Hannah Arendt, a la qual es referia Enzo Traverso, és cert que ve no de la mà de precisament no de la mà del projecte clar que pot tenir Hannah Arendt, de que Hannah Arendt parteixi d'una anàlisi de, diguem, Auschwitz com a concepte, no més, i que en canvi no dongui exactament una proposta acabada, política, com intel·lectuals, diguem, militants podien haver-nos donat. És precisament aquesta manca, aquesta contundència amb l'anàlisi i aquesta manca de proposta el que segurament ens va donar als anys 70, a la primera meitat dels 70, d'una banda, una certa llibertat per pensar sense un projecte clar en moments en què s'obria pas ja d'una forma molt dura la crítica a aquell pensament que ens havia contingut molt fortament amb la nostra militància, més en un país on la militància política, la lluita contra un règim polític encara sostenia les condicions del període d'entreguerres, ens portava a haver volgut tenir la seguretat de disposar d'un repertori ideològic molt ferm i d'un repertori moral basat fonamentalment en els aspectes més durs del feixisme, de l'experiència sobretot nacionalsocialista. El que necessitàvem a començaments dels 70 per la crisi del marxisme, per al començament del nostre interrogatori, de les coses que no funcionaven, era que la contundència de la condemna anés acompanyada d'una certa liberalitat d'opcions. El que passava és que també tenien molta por de caure en una tentació postmoderna que ens portés a que l'actitud de condemna, aquesta llibertat d'opció, n'és acompanyada d'un cert escepticisme, d'una certa trencada general de ponts cap a tota una tradició filosòfica que ens hauria deixat totalment desarrelats. Aquesta necessitat d'alliberar-se de dogmatismes, de mantenir la tensió moral, de deixar-nos una certa pluralitat d'opcions socials i polítiques, però de no voler trencar amb una tradició filosòfica que no podíem negar en el seu conjunt, com si tota ella hagués estat responsable de la catàstrofe i de la crisi moral del segle XX, i no volíem començar totalment de zero, a una generació que vivia amb una dictadura fonamentada amb uns seus orígens feixistes i amb una guerra civil i en connexió amb un holocaust europeu, i amb una violència terrible en la Guerra Civil Espanyola, ens produïa, per tant, el gust per la posició, diguem, fins i tot moral de Heidegger sense una proposta política i, sobretot, sense propostes socials, clares. És a dir, un pensament moral sense una proposta d'aliances socials que nosaltres en aquells moments eren prioritàries. Jo crec, d'una altra banda, que aquí el que hauríem de pensar una mica és amb el tipus d'intel·lectuals que tenim. Els que som historiadors de formació, no som ni filòsofs, ni historiadors de les idees, sinó historiadors més aviat dels esdeveniments, dels processos socials, el que treballem és bàsicament amb els intel·lectuals quan són intel·lectuals orgànicament relacionats amb una proposta política. És a dir, aquests intel·lectuals relacionats amb una proposta política, clar, no superen l'any 45. Aquests no poden superar el 45, ningú els escolta, i els intel·lectuals que poden ser de partit, que són funcionaris de partit, que són, dels que parlaré jo després, són intel·lectuals vinculats directament a l'organització d'un partit, Ramiro Ledesma, José Antonio Primo Rivera, són intel·lectuals en la mesura en què són, ningú els hauria escoltat com intel·lectuals si no haguessin tingut un partit al darrere. Eren massa bons per ser militants de base, però eren no tan bons per ser uns intel·lectuals que haguessin estat escoltats sense el projecte polític de partit. És a dir, ningú hauria escoltat a Ramiro Ledesma, ningú hauria escoltat a José Antonio Primo de Rivera fent una oferta intel·lectual. Només els podien escoltar si participaven d'un projecte polític. Però jo crec que també, i amb l'Anna Arendt també ens trobem amb això, només li interessen els intel·lectuals que tenen una gran capacitat, només li interessa Heidegger, no? Només li interessen aquells intel·lectuals de la revolució conservadora que poden tenir una certa contundència. Jo crec que no ens ofereix una reflexió sobre una cosa fonamental, perquè els intel·lectuals de la revolució conservadora, considerada en uns termes més amplis, la revolució conservadora no estrictament el feixisme, sinó anant més enllà del feixisme, de tot el complexe del feixisme, aquests intel·lectuals van ser indispensables pel funcionament dels règims. Els règims no van funcionar controlats per una plebe, ni per un subproletariat, ni per una gent bàrbara sense poca preparació. Els règims van necessitar, que per exemple, el llibre d'Ingrao que ha plantejat el Croix, Obéir, com apareix tota una generació d'universitaris que són els que, a més, són els oficials del Sicherheitsdienst. Són les persones indispensables per muntar l'RCHA, el Servei de Seguretat del Reich. Aquests intel·lectuals vinculats a la barbàrie, no només per la seva ideologia, sinó pel seu concepte d'un nou intel·lectual vinculat al teta, l'intel·lectual factor, l'intel·lectual que produeix barbàrie, no? que organitza la barbàrie, que es necessita un intel·lectual que no és exactament un filòsof, que és un arquitecte, que és un economista, que és un geògraf, que és un especialista en aquests també són intel·lectuals. És el que el Herf qualificava d'intel·lectuals del modernisme reaccionari. Aquestes persones que són entre tècnics i intel·lectuals, aquests que no són uns pensadors purs, però que estan vinculats necessàriament, sense els quals no es pot fer l'organització coherent de l'extermini. Sense ells no es fa, no són els intel·lectuals purs de llibre, de càtedra de filosofia, són els professionals. Són els professionals que es veuen a si mateixos com una cosa diferent al món no intel·lectual. Es veuen com intel·lectuals orgànics, com intel·lectuals professionals, com a funcionaris, pensadors funcionaris del nou tipus de coses. Jo crec que la reflexió d'Arendt, la reflexió que es fa sobre la relació entre intel·lectual i barbari en aquest cas, hauria de contemplar una altra capa d'intel·lectuals que són els que realment connecten els fets amb una concepció del món. Això per mi és important. Després, sobre revolució conservadora, voldria, aquí segurament tindrem dificultats per entendre'ns, no? Però jo tinc una visió del feixisme que no és tan microcirúrgica en el sentit que els feixistes siguin estrictament la visió més radical del feixista, no? Allò, diguem, la visió més pura del feixista, totalment diferent a un conservador, totalment diferent a un reaccionari, és a dir, els que situen en les classificacions tan estimades pels nostres companys de ciència política, no? Que només se senten satisfets si hi ha una classificació, si no hi ha un concepte, els hi entra el delirium tremens, la sensació de que els hi falta la dosi conceptual, i llavors els historiadors també a la dosi conceptual ens provoca també un altre tipus una sobredosi, potser no la carència, sinó una sobredosi de conceptes, quan els historiadors només ens trobem contents amb les narracions. Però jo crec que, a veure, jo tinc una visió del feixisme que ve del feixisme no tant com ideologia, com a teoria, com a proposta conceptual, sinó com un procés de feixistització de la societat, on les dinàmiques socials no és que siguin una altra manera de veure-ho, sinó, és a dir, en una perspectiva que no és per dalt, sinó per baix. Jo no crec en això de les perspectives per dalt i per baix. Jo crec en les perspectives dinàmiques, en les que fan veure com un feixista es fa. Un feixista no neix feixista, ni els feixistes neixen feixistes. No neix. No és una categoria genètica ni una cosa tancada en una habitació i que al moment de la seva maduració intel·lectual aquella persona té una proposta feixista. Ho dic perquè la búsqueda dels feixistes purs, i especialment amb el debat que tenim en aquest país, que el Maxi el coneix perfectament per les baralles que tenim, no entra allí jo, no ho diria aquí si tingués una baralla, no sóc una persona molt cordial i sobretot covarda, no ho diria aquí directament, sinó que tenim un problema per definir què és estrictament l'espai del feixisme i quin és l'espai on que ja no és feixista. Jo crec que mirat com una foto fixa no ho entenem. Mirat amb un procés de formació, el que veiem és un procés de feixistització i de vegades de defeixistització, on les persones en la seva trajectòria vital són més o menys congruents amb un determinat projecte polític que té l'hegemonia, per recuperar la paraula que serveix tot, un projecte, el feixista, que té l'hegemonia sobre el conjunt de la contrarrevolució social i política d'Europa. Naturalment, aquí, amb aquesta observació del procés de feixistització com un procés que no és que els feixistes vagin convencent a gent, sinó que el procés de feixistització vol dir que tots els sectors de la dreta europea i d'alguns sectors juvenils, que radicals, rebels, van a parar a un mateix espai on les hegemonies internes varien i sobretot es combinen. És a dir, el que podríem considerar un intel·lectual com Speer, en el sentit d'una persona, un professional, es combina amb un intel·lectual com Otto Ohlendorf, responsable d'un dels Einsatzgruppe i executat a Múnich, em sembla. Doncs aquesta diferència entre aquests dos intel·lectuals marca que no només hi ha l'hegemonia d'un sector sobre els altres, sinó que els responsables, els que podrien representar cada un dels sectors, el més genocida i racista d'Otto Ohlendorf, el més tecnòcrata de Speer, es combinen amb una relació necessària. I que, per tant, el feixisme és aquesta combinació. No voldria caure en un discurs estructuralista, no? Però el feixisme és, en bona mesura, la combinació, i el fet que dona dinamisme al feixisme no enfebleix el feixisme que hi hagi posicions diferents, sinó que la condició de que el feixisme pugui ser realitzat és l'existència amb el mateix projecte polític d'herències, de genealogies diferents. Quina és dins d'elles el que és feixista i quina no? Quina és la que està subordinada a un feixista hegemònic? O hauríem de parlar de diverses formes d'entendre el feixisme com a proposta amb una immensa crisi de la cultura, no? És menys feixista Calvo Sotelo, per exemple, també un intel·lectual, que Ramiro Ledesma? Per què? Partint d'una idea del feixisme, que trobem el feixisme com un feixisme revolucionari, juvenil, laic, etc. Però clar, des d'un altre punt de vista que ens situa el feixisme, com Brasillach deia, el primer màrtir del feixisme espanyol és Calvo Sotelo. No parla de José Antonio, parla de Calvo Sotelo. És a dir, per nosaltres Calvo Sotelo seria un reaccionari, i els feixistes serien, en canvi, el Ramiro Ledesma radical i laic. Jo crec que amb el complex feixisme, i aquí voldria entrar, és on hem de situar aquesta versió de la revolució conservadora. Quina és la relació entre revolució conservadora i el feixisme? Revolució conservadora és una atmosfera fora d'un nucli que és el feixista polític, i la revolució conservadora seria una atmosfera intel·lectual que no arriba a ser feixista en el sentit de la seva aplicació política real, dels actes, entre ells l'extermini, que és el que definiria finalment el projecte nacional socialista, o no tenen res a veure, o és un camí de pas cap al feixisme, o en un moment donat sí i en un altre moment no, i per això Müller tracta de salvar la dignitat dels revolucionaris conservadors com persones que no han entrat directament amb el feixisme. Ha estat necessari el treball seminal dels revolucionaris conservadors per donar-li al feixisme una entitat més diguem, més digne, més favorable, una etiqueta d'etiqueta, com si els revolucionaris conservadors fossin els feixistes vestits de diumenge, perquè, o els inconformistes francesos. Aquesta lluita que hi ha a l'Acadèmia Francesa de considerar que els inconformistes dels anys 30 res no tenen a veure amb el feixisme, que Thierry Molnier no té res a veure amb el feixisme, és una altra cosa, tots són una altra cosa quan el monstre del feixisme apareix. Destituït el feixisme de la seva categoria, enfonsat en un fang amb el feixisme, no té cap, té un desprestigi tan potent com el que no tenia als anys 30, d'altra banda s'ha de dir els mitjans intel·lectuals, llavors el que hem de salvar són els inconformistes de qualsevol. Els inconformistes francesos dels anys 30 res no tenen a veure amb el feixisme. Jo crec que, per tant, aquest camp de confluències, d'interrelacions, és el camp on jo crec que l'Hannah Arendt no va entrar. No? Va entrar en el camp de les col·laboracions, de les indiferències, de les participacions, de les ambigüitats, de les víctimes, com víctimes que treballaven de salvar-me i estableixien nivells de col·laboració, com l'ambigüitat de determinats genis de la filosofia com Heidegger, però en canvi el que no va entrar és en l'anàlisi d'aquests intel·lectuals funcionaris on potser, i més vinculats en la política, on potser on trobem el ventre real del feixisme. Si busquem el ventre real del feixisme no el trobarem amb el compromís de Schmitt o amb el compromís de Heidegger, el trobarem amb el compromís d'aquells professors universitaris, d'aquells doctors en història, en economia, en dret, que van participar directe, que es van considerar indispensables per portar a terme el projecte de l'aniquilació al període d'entreguerres.
Tot això em tocarà fer de, no de dolent, sinó d'ultradolent, que bàsicament vol dir que no tenim més temps. I efectivament, perdona? Sí, per això. No. Abans d'això, abans de tancar-ho, en fals, perquè és així, tancarem en fals. Efectivament, em sembla que jo ahir deia, quan inauguràvem el col·loqui, que un dels objectius de la càtedra, des de fa temps ja, és intentar estabilitzar l'axi interdisciplinar, si es pot dir d'aquesta manera. Jo crec que la millor demostració d'això ha estat aquesta taula improvisada, però déu-n'hi-do com ha funcionat per ser improvisada. Evidentment no estem molt lluny de tancar un debat en el qual jo crec que, si més no, queda clar una cosa, diguéssim, que l'espai de l'antiliberalisme, d'alguna manera, l'espai del rebuig al liberalisme de la primera postguerra és un espai absolutament complex, absolutament dinàmic, i en el qual, diguéssim, ens continuarem movent a la tarda també, d'alguna manera, perquè la pròpia conferència del Ferran Gallego a les 4 de la tarda anirà per aquí. Em sap molt greu aturar el debat d'aquesta manera, però són, diguéssim, és la sort que tenim al mateix temps de tenir un debat d'aquest tipus, ens porta a aturar-ho d'aquesta manera. Tot seguit, abans de cloure aquesta sessió del matí, com ja sabeu i hem dit ja diverses vegades, tenim la presentació ara mateix del llibre de la Mari Paz Valibrea, que l'acompanyarà en Jordi Font. Moltes gràcies a tots.